L'autre Américain n'est pas là.
Non, il est à la grenouille.
À la grenouille.
CO2, mon amour.
Où ça? À l'étang des Trois Curés. J'y vais. Une gaule et la ligne.
Mais prenez ma canne dehors et tout montez. Attendez, je vais vous donner un hameçon.
Ah, pas besoin. Oh là là.
Ah bon?
Avec Denis Chesson.
Dites, Pépé, on joue pas, on a une commande de 20 douzaines pour le grand hôtel demain soir.
Tu me connais pas, fiston. Tu sais pas qui c'est, la reinette.
Sur France Inter.
Bah oui, mais encore faut-il qu'il en reste des grenouilles. Bah c'est ça le problème. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. CO2 mon amour, émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant des grenouilles et de la nature, avec Nicolas Slimani et Nicolas Cazot, aujourd'hui à la technique. Et c'est quasiment une première pour Camille Blanès, qui, avec Xavier Pestugia, va réaliser cette émission. Alors, joli mois de mai, respire et fais ce qu'il te plaît. Respirer l'air de certains coins de France, Paris, la vallée d'Arbes, fausse surpollution plus que sur mer, eh ben, ça devient compliqué. Il faut se souhaiter vraiment bonne chance. Et se faire retirer les poumons gainés de particules fines, je sais, vous y avez pensé, mais c'est pas la solution non plus. Vivre à la campagne, eh, pas si sûr, avec les tracteurs qui déploient leurs grandes ailes subventionnées par nos impôts. Alors, faire de la biodiversité une priorité internationale. C'est ce qu'a dit Nicolas Hulot. Alors, le problème n'est pas de savoir si Hulot est ou non motivé, ça il l'est, mais le problème est de savoir s'il a les moyens de ses ambitions. Et tant que le ministre de l'écologie sera un ministre parmi d'autres, eh bien, l'écologie sera aussi une politique parmi d'autres. On ne peut pas dire que ce soit totalement prioritaire aujourd'hui, cette histoire. Vertébrés, oiseaux, grenouilles, batraciens, insectes, microfaune du sol, dégringole du paysage, aussi vite que les dividendes grimpent vers le ciel. Bon, mais je suis d'accord avec vous, hein. Les vraies douleurs, elles sont ailleurs. Elles sont ailleurs. Dimitri Payet n'est pas retenu dans l'équipe de France. Et là, on va rester inconsolable. Le joli mois de mai. Exit les seins de glace. Et mois de mai, celui des mots d'amour et des guiches écarlates pendus aux oreilles. Mais les vents du printemps sont parfumés de pétrochimie et les exploitants, au perché dans les cabines des pulvérisateurs, n'ont plus assez d'oreilles pour écouter les murmures d'agonie de la terre qu'ils travaillent. Et il n'y a pas un matin en ce moment sans nuages en cide sur les pommiers, pas une journée sans vapeur bleue jaillissant des rampes de traitement au-dessus des blés en herbe. On continue comme on l'a toujours fait, enfin, depuis en fait un demi-siècle. Mais nul échappatoire, il faut traiter. Et le pire, c'est qu'ils ont peut-être raison, piégés donc par le système qu'ils sont. Après avoir consciencieusement zigouillé des millions d'hectares de vignes, de monocultures céréalières et fruitières, tous les insectes prédateurs qui leur étaient utiles, il ne reste plus qu'à éliminer tous les ravageurs spécialisés qui leur sont nuisibles. Tout. Comme après avoir éliminé avec acharnement faucons pèlerins et autour des palombes, seuls oiseaux capables de réguler les populations de corvidés. Eh ben, on vient pleurer la prolifération des tourneaux, de la pie, de la corneille noire ou du pigeon dans les villes. Courte vue, myopie, la nature est hostile au direct profit. Alors l'autour, bah tenez, je ne sais pas si vous le connaissez, mais enfin, il mangeait aussi de la perdrix, du lapin, de la volaille, d'élevage. Et oui, pourquoi serait-il le seul à se fatiguer? Donc, à mort l'autour. Et nous voilà rendus, après un demi-siècle de guerre à la biodiversité, d'empoisonnement systématique et de destruction des écosystèmes face à des paysages, en partie cliniquement stérilisés. Oui, oui. La biomasse d'insectes est peu de choses, mais les pare-brises sont propres. Ah, il y a quand même des avantages. Les gallinacés et passereaux qui nichent au sol vont disparaître, car tous les oiseaux ne sont pas exactement arboricoles. La vie sauvage est cloîtrée en parc en volière tarifée, mais quand même bonne nouvelle. Si, bonne nouvelle, ce n'est pas encore irréversible. Il peut y avoir du bon. Alors nous aussi, on doit changer de chanson. Nous voilà donc au pied du mur et on va bien voir ce que vaut le maçon. Donc, du végétal, tenez, bah, du végétal, on va en parler, je vous le disais, avec l'intelligence des pleurs, avec Fleur d'Auget, qui a écrit un ouvrage sur les découvertes qui révolutionnent notre compréhension du monde végétal. Et puis aussi, donc, avec vous, tenez, rapprochez-vous, Nicolas Métro. Bonjour à vous, Nicolas Métro.
Bonjour.
Vous êtes le président de Kinomé. On va parler aussi du végétal et de l'arbre. En un mot, s'il vous plaît. De quoi va-t-on parler?
Alors, moi, mon métier, c'est pourquoi je me lève le matin, c'est d'améliorer la vie des gens partout dans le monde grâce aux arbres. Et du coup, progressivement changer leur regard sur la nature, sur eux-mêmes aussi, et puis leur comportement. Et ça prend plein de formes, on verra tout à l'heure, mais il y a toujours deux points communs. Partir des besoins des gens, et puis utiliser le génie des arbres pour améliorer la nutrition, pour lutter contre la désertification, pour inventer des nouveaux produits, des nouveaux emplois. Tout ça grâce aux arbres.
Et on vous retrouve donc dans cette émission d'ici quelques minutes, après donc Fleur d'Auger que l'on va retrouver du côté de Châteauroux. Mais il y a aussi dans l'actualité, alors intéressant ça, on va faire un petit tour à la cantine, celle de vos enfants. Alors bonjour à vous Magali Della Souda, parce que vous êtes parente d'élèves et secrétaire de l'association Cantine sans plastique. Bon, et là on voit qu'il y a un petit problème sanitaire environnemental, vous prenez cette affaire à bras-le-corps. Quel est le problème Magali ?
Bonjour Denis Pessou. Ben, le problème du plastique et des cantines, c'est que sans que les parents le sachent, eh bien leurs enfants mangent très souvent, surtout dans les grandes villes, parfois dans les assiettes en plastique, et le plus souvent des aliments qui ont été cuisinés, voire réchauffés dans des contenants en plastique.
C'est plutôt là qu'il y a le problème quand même, hein, plutôt que les assiettes, on va dire.
Alors les assiettes, bon bah dans celles qui ont été testées à Bordeaux, il y a du bisphénol A, donc il y a quand même un petit souci.
Oui.
Mais le plus gros souci, effectivement, c'est d'abord la cuisson dans des sacs en plastique. Donc, je vous résume ça rapidement. À Bordeaux, à Lille, peut-être à Nice, si la mairie ne change pas d'avis, eh bien, on met la viande et les poissons dans des sacs en plastique. On met tout ça dans des grandes cuves avec de l'eau pendant 24, 48, voire 72 heures. On ressort les sachets, on stocke tout ça 3 semaines et ensuite on remet dans des petites barquettes en plastique qui sont amenées dans les écoles et qui sont ensuite réchauffées dans des fours.
Et donc ça libère voilà. Des perturbateurs endocriniens.
Et donc la cuisson et puis après donc le passage dans ces barquettes en plastique qui sont réchauffées telles quelles dans les fours, ça libère des perturbateurs endocriniens. Mais pas seulement, il y a aussi des molécules qui sont cancérogènes dans ces plastiques.
Que peut-on faire à la place ?
Eh bien, on peut faire des choses très simples. On peut utiliser des bacs en inox, comme c'est le cas à Bègle, à Poitiers, à Limoges. C'est aussi le cas maintenant dans un certain nombre de cantines à Strasbourg. Et puis, peut-être bientôt à Paris, puisque le Conseil de Paris a décidé de passer donc à des matériaux durables dans les années qui viennent.
Alors, nous sommes dans une actualité parce que vous avez convaincu la députée Lauriane Rossi de défendre donc cette cause à l'Assemblée. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine ?
Alors cette semaine, on va discuter à l'Assemblée d'une loi qui va porter sur l'agriculture et l'alimentation, c'est la loi Egalim. Et dans cette loi, il y a un article 11 qui concerne spécifiquement les cantines et la restauration collective. Nous, ce qu'on a demandé à différents députés, donc Madame Rossi, députée des Hauts-de-Seine, République En Marche, c'est de proposer une interdiction des contenants alimentaires en plastique pour cuire, donc c'est-à-dire c'est les poches de cuisson, pour réchauffer, c'est les barquettes qui sont en usage dans la plupart des cantines qui fonctionnent avec des cuisines centrales en liaison froide, et puis de la vaisselle, et ce qu'on entend par vaisselle, nous, c'est les assiettes, les gobelets en plastique.
Pourquoi vous avez ciblé la restauration scolaire spécifiquement et non la restauration collective en général ?
Alors nous, on est d'abord des parents d'élèves. Moi, je suis d'abord une maman, donc c'est de notre expérience de parents hein, qu'on est parti. Je suis aussi une salariée et moi, dans ma cantine, on a été consultés, on a tous dit non. On voulait pas de plastique dans notre cantine au CNRS, mais ça, c'est autre chose. Et l'amendement qui a été proposé par Madame Rossi en commission du développement durable et par Monsieur Prud'homme et qui avait été voté en mars dernier, c'est un amendement qui portait sur toute la restauration collective. Donc au départ, on était là-dessus. Et puis le gouvernement, il a dit non. Il a dit non parce que ça coûterait trop cher, notamment aux hôpitaux, de passer à des matériaux durables et de mettre un terme à ces procédés-là. Donc ce qu'a proposé Madame Rossi, c'est de restreindre la restauration scolaire. Il y a quelque chose de crucial aussi hein, dans la restauration scolaire, c'est que les enfants, c'est une population qui est vulnérable.
Bien sûr.
Qui est vulnérable à deux points de vue. Qui est vulnérable parce qu'ils sont en développement.
Ils sont en construction, ils vont attraper davantage de choses, oui, bien sûr.
Exactement. Et qu'un effet d'une exposition aux perturbateurs endocriniens sur un petit de 3 mois à la crèche, un enfant de 3 ans en maternelle ou une adolescente ou un adolescent, c'est pas la même chose que sur un salarié qui a 50 ans. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ce sont des usagers qui sont captifs. Nous, on a besoin que nos enfants y mangent à la cantine. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'on travaille, mais on n'a aussi pas le choix parce que c'est un projet de société de laisser nos enfants à la cantine qui mangent tous ensemble. C'est comme ça aussi qu'on fait du vivre ensemble.
Merci à vous, Magali Della Souda. Et puis, bonne chance hein, pour lutter contre ce plastique. À très bientôt.
Merci à vous, Denis, à toute l'équipe. Au revoir.
C'est pas mal, hein, quand même, la société civile, comme on le dit. Donc, les citoyens, vous, nous qui bougez. Voilà, il y a aussi, il peut y avoir des solutions. Il faut renverser un petit peu la vapeur. Alors, tenez, avant de parler de l'intelligence des plantes et des solutions aussi avec qui nommer avec les arbres, eh ben, un petit clin d'œil à Gérard Joannès, qui est parti cette semaine, qui était un grand compositeur de Brel. Il a fait Mathilde, Fils de, Les vieux amants, Les vieux tout court, Ne me quitte pas. Et vive la Belgique.
C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Place de Brouckère, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brouckère, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il était militaire, elle était fonctionnaire. Il pensait pas, elle pensait rien. Et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sur les pavés de la place Sainte-Catherine dansaient les hommes, des femmes en crinoline. Sur les pavés dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il avait su faire, elle avait laissé faire. Il l'avait donc fait tous les deux. Et on voudrait que je sois sérieux. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles dansait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sous les lampions de la place Sainte-Justine chantaient les hommes, les femmes en crinoline. Sous les lampions dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il attendait la guerre, elle attendait mon père. Ils étaient gays comme le canal, et on voudrait que j'aie le moral. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. Tout au temps Bruxelles bruxelait.
J'aime pas les tomates.
Bah tu les enlèves.
J'aime pas les pommes de terre non plus.
CO2, mon amour.
T'aimes pas les pommes de terre non plus, alors tu les enlèves aussi.
Il restera que la salade.
Et alors la salade, t'aimes pas la salade? Allez, mange.
Avec Denis Chesson.
Je ne marche pas, je ne peux pas fuir, on me croit passive. On me place inférieure dans la hiérarchisation du monde. Grave erreur, je suis une plante. Car on a quand même une énorme méconnaissance face aux plantes. D'ailleurs, Platon opposait bien sûr raison et nature. Enfin, je dis bien sûr parce que c'était ça à l'époque. Il trouvait les plantes passives, il disait que ça faisait que pousser. Aristote creuse encore la différence entre le végétal et l'animal. Et alors, bonjour à vous, Fleur d'Auger, très joli prénom pour parler évidemment de plantes. Car c'est peut-être aussi pour cette raison que vous avez écrit cette intelligence des plantes, les découvertes qui révolutionnent notre compréhension du monde végétal, édité chez Ulmer.
Bonjour. Ben oui, en effet, on est tributaire en fait de tout ce que Platon et Aristote nous ont raconté au sujet des animaux et des plantes, et notamment que les plantes, ben voilà, étaient des êtres sans âme, qui ne sentaient pas, qui ne se contentaient de pousser. On pense toujours un petit peu comme ça en réalité. Malgré Darwin, qui lui, déjà au 19e siècle, quand il réfléchissait à sa théorie de l'évolution, il travaillait aussi beaucoup sur les plantes, ce qu'on sait peu, c'était aussi un grand botaniste. Et il avait eu déjà pas mal d'intuitions, il parlait de la racine cerveau. Et les scientifiques d'aujourd'hui, depuis à peine une vingtaine d'années, donc c'est un domaine de recherche encore très jeune, se sont repenchés sur toutes les théories de Darwin, les hypothèses qu'il avait évoqué à l'époque. Et avec les instruments scientifiques d'aujourd'hui, les expériences d'aujourd'hui, ils se rendent compte que Darwin avait raison sur beaucoup de choses.
Bah, déjà, il démontrait la continuité du vivant. Et puis, en plus, il parlait, lui, de différence de degré et non de nature entre l'homme et l'animal. Mais ça pouvait être aussi entre, on va dire, l'homme et le végétal.
Exactement, ça c'est très important parce que il y a encore énormément de gens qui disent par exemple mais nous ne sommes pas des animaux. Moi j'entends souvent, j'en sens souvent dire ça parce que je parle souvent dans mes livres d'intelligence animale ou d'homosexualité animale par exemple et on m'oppose souvent cette notion-là alors que ben justement Darwin sa théorie c'est notamment ça qu'elle dit, c'est que nous ne sommes qu'un animal parmi les autres. Ça a été un séisme dans la science et dans la société à l'époque et finalement ça l'est toujours aujourd'hui, il faut toujours creuser et ouvrir les consciences pour qu'on se rende compte que nous sommes reliés à tous les autres êtres vivants et on verra aussi aux plantes puisque elles ont les mêmes défis que nous à chaque jour à affronter, hein, se nourrir, se reproduire, se défendre contre les prédateurs aussi.
99% de la biomasse est occupée par le végétal, donc le 1% qui reste, bah, c'est pour l'animal, c'est pour l'homme, le champignon, les bactéries et j'en passe. Et Francis Allais, qui est vraiment un botaniste assez génial, donc dit très justement que le végétal est fondamentalement autre. Ça veut dire que oui, il est engagé dans la course au soleil, mais en fait, il est très différent pour l'appréhender. C'est-à-dire que nous, on va rentrer en empathie assez facilement avec l'animal qui va se déplacer, qui va crier, qui va chasser, qui va s'occuper de ses petits, mais on n'a pas tellement d'état d'âme, on va dire, à arracher un pissenlit ou à passer la tondeuse.
Ben oui, exactement. Vous avez décrit tout ce que j'allais dire.
Ah, pardon.
C'est que, en effet, le végétal, il est tellement différent de nous, alors qu'il est partout autour de nous, qu'on a du mal à s'imaginer qu'il puisse avoir une sensibilité, qu'il puisse avoir une capacité à voir, par exemple, à sentir, puisque il y a une capacité du toucher chez la plante. Quand on touche la feuille d'une plante, elle va le sentir. On le sait aujourd'hui. Déjà, c'est difficile pour nous de rentrer en empathie avec l'animal malgré tout. Hein. Il a raison, Francis Allais, je suis d'accord avec lui. C'est vrai qu'un animal qui a des yeux et un nez, on arrive plus facilement à s'identifier à lui.
Mais avec la blatte, ce que je veux dire, avec la blatte ou bien la vipère, c'est plus délicat, je dirais, pour l'être humain.
Pour certains d'entre nous, c'est sûr.
On va peut-être partir des cinq sens. Alors oui, ils sont là chez les plantes, c'est ce que l'on découvre d'ailleurs grâce à la science, mais ils sont évidemment différents des nôtres.
Ben oui, évidemment. Hein, quand on parle des cinq sens chez la plante, ils vont forcément être différents des nôtres, comme son intelligence va être différente de la nôtre, puisqu'on ne vit pas de la même façon, on n'a pas le même corps. Et pourtant, on trouve quand même évidemment des similitudes, puisqu'on vit sur la même planète, on est confronté aux mêmes signaux. Donc par exemple, les plantes, elles vont avoir le sens de la vue. Et qu'est-ce que c'est la vue, finalement? C'est être capable de capter la lumière, tout simplement. Donc la plante, pour elle, la lumière, c'est essentiel, puisqu'elle se nourrit de lumière, hein, finalement. Mm-hmm. Elle va transformer par la photosynthèse, voilà, la lumière en sucre pour s'en nourrir. On se rend compte même, il y a des recherches très récentes de Stefano Mancuso et Francisco Balusca, qui ont étudié une plante caméléon, on l'appelle comme ça, parce qu'elle va imiter les plantes qui sont à côté d'elle. Et ils pensent, ces auteurs-là, qu'elles sont dotées d'ocelles. Donc les ocelles, chez la mouche par exemple, c'est un œil simple qui est capable de capter la lumière. Donc on pense que peut-être les plantes auraient même des yeux avec lesquels ils sont capables de reconnaître les formes, les couleurs des plantes autour d'elles, en tout cas cette plante-ci, et de les imiter. Donc il y a plusieurs expériences qui ont été faites autour de cette plante-là et qui ont tendrait à penser qu'elles sont même capables d'avoir des petits yeux. Voilà, c'est vraiment le début. Il faut encore chercher pour être sûr de ça.
Autre sens, le son qui nous est extrêmement cher, donc cette vibration qui se propage sous forme d'onde. Qu'est-ce que l'on peut dire sur l'ouïe et les plantes?
Oui, alors ça, c'est aussi des recherches très très récentes qui datent, je crois, de 2017 seulement. C'est une scientifique qui vit en Australie, Monica Galliano, qui a étudié la capacité des plantes à entendre l'eau qui coule dans le sol. Donc elle a fait plusieurs expériences assez ingénieuses que je décris dans le livre, mais pour vous résumer ça, elle a mis des plantes dans des pots, donc certains n'avaient été au sec, hein, n'avaient pas d'eau dans leurs plants. Il y en avait deux, un était tout seul et l'autre était entouré d'un petit tuyau dans lequel de l'eau circulait. Elles n'avaient toutes les deux pas accès à l'eau du tout, hein, seulement au son ou à rien. Et celles qui avaient ce son de l'eau qui tournait autour d'elles, leurs racines poussaient comme si elles cherchaient à capter cette eau qu'elles avaient entendue. Donc évidemment, elles n'ont pas des oreilles comme nous, mais le son, finalement, c'est une vibration. Hein. Donc elles seraient capables de capter comme ça les vibrations. Et cette découverte, elle est très importante parce qu'on dépense des millions chaque année dans le monde pour débarrasser les canalisations d'eau de toutes les racines qui les bouchent. Et on dépense aussi énormément de produits chimiques, on met beaucoup de produits chimiques pour empêcher ça. Alors que peut-être, elle dit, cette chercheuse, tout simplement, il faudrait isoler les canalisations pour empêcher les plantes d'entendre cette eau qui coule et d'aller vers cette source d'eau.
Alors ce que je vous propose, Fleur d'Auger, puisque donc vous êtes à France Bleu Berry à Châteauroux, c'est d'écouter un homme que vous connaissez, c'est Jean-Marie Pell, parce que ce formidable botaniste, là, il a vraiment sa place pour nous parler de la défense des plantes. Ça date d'il y a 16 ans. Et une fois de plus, cet homme-là était visionnaire, donc l'homme de l'aventure des plantes, l'homme de l'aventure du récit botanique sur France Inter et CO2. Et avec Jean-Marie, ben, ça commençait toujours à peu près de la même façon, nos petits reportages.
Bonjour Denis, bonjour à tous. Ben, les animaux mangent des plantes, et si les plantes ne se défendaient pas, elles seraient déjà toutes mangées. Il n'y aurait donc plus d'animaux, et nous ne serions pas là pour le dire.
Exactement, car nous en avons besoin, c'est
voilà.
Indispensable.
Et alors les plantes, qu'on sait très peu, ont des quantités de systèmes qui gênent la prédation des animaux, et qui la diminuent et qui la régulent par conséquent.
Je veux dire qu'elles ont quand même un certain nombre de sens.
Oui, le système de prédation est un système régulé. Alors, on le voit dans de nombreux cas, les plantes sécrètent des produits que les animaux n'aiment pas. Et ces produits sont souvent des tanins qui rendent les protéines indigestes et complètement indigestibles. Et donc, l'animal ne peut pas consommer. On connaît ça chez les antilopes, on connaît ça chez les chenilles.
Comment ça fonctionne, ça ?
Alors, ça fonctionne d'une manière subtile. Quand elles consomment de ces plantes qui contiennent les tanins, elles restent sur leur faim. Et alors, ce que sachant, un certain nombre de plantes sécrètent des tanins lorsqu'elles sont broutées. Et la teneur en tanins dans les feuilles augmente, de sorte que le broutage devient de moins en moins efficace et que les animaux cessent de brouter. Alors, ils vont sur les acacias, par exemple, s'il s'agit d'antilopes, voisines. Et les acacias voisins ont curieusement aussi fabriqué des tanins. Pourquoi ? C'est là que c'est subtil, parce que les premières plantes qui ont été broutées, les premiers arbres broutés, ont émis dans l'air un gaz qui s'appelle l'éthylène,
qui a été reconnu par les autres,
ouais. Et quand l'éthylène les a touchées, elles se sont dit « Attention, il y a des prédateurs à proximité, je fais des tanins ».
Donc, mieux que le portable, la communication entre les plantes.
La communication entre les plantes par gaz.
Oui.
Par gaz, ce n'est pas électromagnétique, ça n'a pas de problème non. En plus. C'est très efficace.
Il n'y a pas de pylône.
Il n'y a pas de pylône non plus, oui, c'est ça. Et alors, les antilopes qui sont devenues intelligentes à ce système vont plus loin brouter là où l'éthylène n'a pas pu arriver. Mm-hmm. Et là, naturellement, les arbres ne contiennent pas de tanins. Et puis, elles les broutent de nouveau. Et puis, l'éthylène est de nouveau émis. Et c'est pour ça que quand on voit comment se fait la prédation, on s'aperçoit que les prédateurs, les brouteurs, par exemple, ne broutent jamais tout au même endroit. Ils se baladent. Quand on met des vaches dans un champ, elles font des taches un peu de tous les côtés.
Oui.
Elles ne tondent pas comme une tondeuse. Hein, c'est très, très différent.
C'est pas régulier, bien sûr.
C'est pas régulier du tout. Et c'est probablement dû à des mécanismes de ce genre-là qui régulent la prédation. Alors, il y a des systèmes qui sont encore beaucoup plus sophistiqués. Mm-hmm. Il y a le cas du haricot qui est marrant comme tout. Quand il est infesté par des acariens qui sont des petites bêtes qui le mangent, alors, il a un moyen de défense, il émet un bouquet de substances volatiles. Et ces substances appellent à la rescousse des prédateurs de ces acariens, qui sont d'autres acariens qui mangent les méchants acariens, qui mangent les haricots.
Ah,
et les haricots est débarrassé.
C'est un gang, quoi. Il a des alliés.
Il a des alliés, oui. Alors, il y a beaucoup de cas de ce genre. Le maïs, quand il est attaqué par des chenilles, émet un mélange de substances qui attire les guêpes. Et les guêpes pondent leurs œufs dans les chenilles. Mais ce qui est le plus drôle dans cette histoire, c'est que ce sont les sottes de chenilles qui sont sur le maïs qui émettent le produit qui attire les guêpes. C'est-à-dire qu'elles font de l'autosuicide. Quand elles font le mal, elles se punissent elles-mêmes.
Oui, ça doit vous plaire.
C'est marrant, non? Voilà. Quand elles font du mal au maïs.
Oui, je comprends bien.
Voilà, elles se punissent elles-mêmes. Alors le tabac aussi a des coups pareils. Le tabac, il est attaqué par un virus. Il émet aussitôt un gaz, et alors ce gaz, c'est de l'aspirine volatile, le méthylsalicylate.
Parce qu'il est aussi attaqué par l'État avec les taxes, mais c'est pas la même chose.
Non, c'est pas la même chose.
D'accord.
Et là, il n'y a pas de moyen de défense.
Ah oui.
On n'a pas mis au point encore un système de défense.
Le prédateur pour la taxe.
C'est ça. Alors, le méthylsalicylate est absorbé par des plants de tabac sains, et dans ces plants de tabac se transforme en acide salicylique, qui est un produit que tout le monde connaît,
l'aspirine.
Qui est très proche de l'aspirine, tout à fait proche de l'aspirine, et ce acide salicylique protège le tabac contre les prédateurs.
Bon.
C'est formidable, hein.
tomate, mon amour. Mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé.
Vous avez rien pour les tomates, hein, parce que ça c'est quand même...
Ah, les tomates, oui, oui, il y a un truc pour les tomates aussi.
C'est un fruit, rappelons-le.
La tomate est un fruit, quand elle est agressée par un insecte, elle produit dans l'air un produit qui s'appelle le méthyljasmonate, c'est joli, hein. Jasmonate, ça sonne bien.
Je ne sais pas si je vais le retenir, mais en tout cas c'est le méthyljasmonate.
Le méthyljasmonate, qui déclenche chez les autres tomates la fabrication d'un insecticide. Et du coup, la tomate devient insecticide et les insectes ne vont plus sur elle. Donc il y a des quantité de mécanismes très subtils, mais qu'on connaît encore très très mal.
Ça veut donc dire que si on en sait plus dans ces mécanismes complexes, peut-être qu'un jour on utilisera moins de produits. Alors.
Ah ben, on utilisera moins de pesticides et on fera jouer ces mécanismes-là, et ça sera la lutte biologique.
Oui.
On utilisera les mécanismes de la nature, parce qu'il est évident que quand on arrose tout ça avec des pesticides, ça ne marche plus après. Parce qu'on
dérègle tout.
On dérègle tout le système, naturellement.
Jean-Marie, est-il possible de dire que les plantes ont véritablement des sens et lesquels ?
Ben ici, nous voyons qu'elles ont visiblement un sens tactile, parce que lorsqu'elles sont touchées et agressées mécaniquement, eh bien, elles répondent d'une manière positive pour se défendre. C'est effectivement un sens.
Elles savent aussi lire la durée du jour et de la nuit.
Elles savent lire la durée du jour et de la nuit, absolument. Elles émettent des odeurs qui jouent des rôles dans la pollinisation. On pourrait rechercher, on pourra le faire d'ailleurs, rechercher les cinq sens des plantes et on les retrouverait.
Elles évaluent la température.
Elles évaluent la température, absolument. Elles lisent la longueur des nuits. Quand arrive le printemps, les nuits deviennent de plus en plus courtes. Et lisant la longueur des nuits, elles se mettent au travail.
Et donc elles reconnaissent l'agresseur et peut-être l'ami, non ?
Elles reconnaissent aussi l'ami, oui, avec lequel elles font des symbioses très remarquables ou des commensalises.
Quel raconteur, donc Jean-Marie Pell, donc le premier à avoir, on va dire, popularisé ces sujets. Ça, c'était quand même en 2001. C'est absolument intact. Et donc, on le voulait en illustration. On va vous retrouver, bien sûr, Fleur d'Auger d'ici quelques instants. Je précise quand même que à Montois-Flanville, alors Montois-Flanville, c'est une petite commune qui est pas loin de Metz, qui est donc en Moselle. Eh bien, j'ai eu le plaisir d'être le parrain d'un musée naturel Jean-Marie Pell. C'est un circuit incroyable avec plein de végétaux qui sur 3 km. Donc, allez-y, c'est à Montois-Flanville. Tiens! Il y a le feu, Chatterton.
CO2 Mon Amour sur France Inter.
Au bord de l'eau, un pigeon défunt. Pour un oiseau, mais quel drôle de fin. Sur la plage, échoue sans cesse, jeté par les vagues. Sans cesse là-bas. À présent l'orage dort sous la grève. Tout corps et tout, le sable s'élève. Puisse l'oiseau foudroyé dans le creux de mes pas reposer. Viens là, le soleil perce l'oiseau. De ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vautour. Le soleil perce l'oiseau gris. De ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vautour. Arrive-t-il d'un pays lointain? Se voilà-t-il au regard éteint? Moi je crois revenu, apeuré et nu, du fond de ma mémoire rétive. Alors du temps qui passe, je remonte le cours, jusqu'à l'impasse où gisent mes amours, espérant trouver des plumes, un souvenir de plus, du pauvre oiseau. Le soleil perce l'oiseau gris, de ses raides et doux, rayons comme des aigus, une poupée vaudou. Le
soleil perce l'oiseau gris. Le serait si doux, rayons comme des aigus, une poupée vaudou. Viens que je te mette à bruit des l'ombre lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur le plaid de tes yeux. Viens que je te mette à l'abri des longs doigts lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur les feuilles de tes yeux. Pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords.
Choisi par notre programmatrice Muriel Pérez, donc sur France Inter, c'était Feu Chatterton, l'oiseau. L'album s'appelle L'Oiseleur, c'est un partenariat France Inter. On poursuit le voyage avec vous, Fleur d'Auger, votre ouvrage, donc L'intelligence des plantes. Et donc là, c'est vrai que Jean-Marie a quand même beaucoup parlé, on a parlé de l'ouïe, de la vue, du toucher. Et aujourd'hui, la botanique contemporaine se pose quand même des questions qui ont cessé d'être incongrues.
Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire que c'est un changement de paradigme, mais en effet, ça remet en question complètement la vision qu'on avait des plantes jusqu'à présent. Et on attend encore les nouvelles recherches qui vont suivre, parce que c'est en plein développement.
Alors Stefano Mancuso, donc vous avez cité, il a créé un laboratoire de neurobiologie végétale. Alors d'abord, c'est de la provoque, parce qu'en fait, les plantes n'ont pas de neurones, elles n'ont pas de cerveau, donc c'est un peu pour provoquer. Mais derrière tout ça, il y a quand même un sens.
Mais il l'a fait exprès, parce qu'il a une citation, Stefano Mancuso, qui est intéressante. Il dit « Les plantes se nourrissent sans estomac, respirent sans poumons, se tiennent droites sans squelette et prennent des décisions sans cerveau ». En plus, ce qu'il a découvert avec tous ses collègues, parce qu'il est vraiment à la pointe de toutes ces recherches-là, c'est que bien que la plante n'ait ni neurones, ni nerfs, ni cerveau, effectivement, l'information circule dans la plante comme si elle avait un système nerveux. Donc, elle n'a pas besoin de système nerveux, et malgré tout, elle est intelligente.
Et ce mot d'intelligence peut faire tiquer, évidemment, parce que même sur la définition, tout le monde ne sera pas d'accord. Mais c'est quand même une manière de dire, attention, on est aussi avec du vivant. Alors, est-ce que, lorsque l'on parle de conscience de plantes, ce qui avait déjà un peu abordé Houlébène, on va dire avec un antispécisme végétal, aujourd'hui, on n'en est pas encore là, quand même.
On n'en est pas tout à fait là, mais en effet, ça dépend comment on définit les choses. Les scientifiques qui parlent d'intelligence, ils définissent les choses en se disant « l'intelligence, c'est une capacité à résoudre les problèmes, une capacité à faire des choix, quand il y a des choix à faire, une capacité à analyser les données qui viennent du monde extérieur pour faire ces choix-là ». Évidemment, on peut débattre pendant très longtemps, même sur l'intelligence humaine, de ce qu'elle est, de ce qu'elle n'est pas. Mais quand on la restreint à ça, on se rend compte que les plantes, elles rentrent dans cette définition-là. Pour ce qui est de la conscience, il y a des scientifiques, il y a plusieurs livres que j'ai lus, quand on aborde le thème de la conscience, il y en a beaucoup qui vont dire « non, non, on ne peut pas aller jusque-là, on ne va pas donner de la conscience aux plantes ». Finalement, qu'est-ce que c'est la conscience ? Il y a une microbiologiste donc qui, elle, s'occupe des bactéries et de tout ce petit monde-là, qui a écrit un livre qui n'est pas traduit en français, qui s'appelle « What is life ?», donc ça veut dire « qu'est-ce que la vie ?». Elle écrit que les animaux ne sont pas seuls conscients, mais tout être organique, toute cellule est consciente. Dans son acception la plus simple, la conscience est la capacité d'avoir une notion du monde extérieur. Et ça, c'est important, parce que c'est important de se rendre compte que effectivement, les plantes, elles ont une notion du monde extérieur. Mmh. Donc, on peut très bien se dire que la conscience, dans un mode minimal, c'est ça.
Si on s'arrête à ça, ça peut fonctionner, quoi.
Oui. Et de toute façon, je pense que c'est pas la peine d'avoir justement des gros débats sur ces sujets-là. La plante, elle a la conscience qu'elle a. Elle n'est pas la conscience de l'homme, elle n'est pas la conscience du chimpanzé, ni celle de la fourmi. Et c'est très bien comme ça. Parce que quand on affirme que les plantes n'ont pas de conscience, par exemple, déjà, on ne sait pas ça, parce qu'il faut attendre que la science ait donné des réponses. Souvent, on se trompe quand on refuse des choses qui n'ont pas encore été prouvées. Et puis en plus, voilà, c'est pas gênant. On peut adapter les concepts aux êtres qu'on est en train d'étudier. C'est important parce que ça nous laisse une ouverture d'esprit et une capacité à aller chercher des choses et à découvrir des choses qu'on pensait impossibles pendant très longtemps.
Alors Fleur d'Auger, j'ai envie de revenir sur un autre sens que l'on connaît, qui est l'odorat. Alors évidemment, les plantes n'ont pas une truffe au milieu de la figure, mais racontez-nous la cuscute. Alors la cuscute est intéressante. Alors c'est une plante en fait qui est parasite. Et que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'elle fait ?
Alors la cuscute, c'est justement un bon exemple pour montrer qu'est-ce que ça peut être pour une plante de faire des choix et donc d'avoir un comportement intelligent. Donc la cuscute, effectivement, elle utilise son odorat. Il en a parlé déjà Jean-Marie Pell tout à l'heure avec les acacias et toutes ces molécules chimiques qui circulent. Donc il y a plein de molécules chimiques qui circulent entre les plantes et qui leur permettent de communiquer, qui leur donnent plein d'informations. Donc cette cuscute, c'est une plante parasite. Alors, elle n'a pas de racines et elle n'a pas non plus de capacité à faire de la photosynthèse. Donc, elle naît, il faut très très vite qu'elle trouve un hôte sur lequel s'accrocher et qui va la nourrir. Sinon, elle disparaît très vite. Donc, les chercheurs se sont posé la question, est-ce qu'elle choisit au hasard finalement ? Est-ce que dès qu'elle pousse, la première plante qui est à côté d'elle, elle va s'accrocher dessus et puis c'est tout ? Ou est-ce qu'elle fait un véritable choix ? Et donc, en faisant diverses expériences, ils se sont rendus compte qu'effectivement, elle fait un choix. Par exemple, quand on lui propose une tomate d'un côté ou un plant de blé de l'autre, elle va faire ce qu'on appelle une circumnutation. Donc, c'est un mot compliqué pour dire qu'elle fait des mouvements circulaires. Donc, sa petite tige, là, on la voit faire des mouvements circulaires dans l'air autour d'elle. Elle va capter les molécules que transmettent les plantes qu'on lui a mis à côté. Et elle va choisir la tomate, parce que c'est reconnu que la tomate, elle a plus de nutriments pour elle. C'est une plante qui va être plus adaptée pour la cuscute. Et je crois que dans 80% ou 90% des cas, elle va choisir la tomate. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a eu analyse des données et un choix qui est fait. Parce que sinon, on trouverait 50-50, par exemple. Elle irait d'un côté ou de l'autre indifféremment.
Et ça, grâce à son odorat. Hein.
Oui, grâce à son odorat, elle va vraiment analyser toutes ces odeurs qui lui parviennent depuis la tomate. Et même, ils ont fait aussi d'autres expériences avec deux plantes d'aubépine, par exemple, un qui était en mauvaise santé et un qui était en bonne santé, pour voir si là aussi elle était capable de savoir quelle était la meilleure plante sur laquelle s'accrocher. Et là aussi, effectivement, elle va préférentiellement choisir l'aubépine en bonne santé.
Alors, il y a aussi quand même d'autres sens, en particulier le magnétisme.
Oui, alors là, c'est pareil, on sait encore très peu de choses sur ça, mais elles sont magnétosensibles, les plantes, donc ça veut dire qu'elles sont capables de repérer le magnétisme terrestre. Il y a plein d'expériences qui ont été faites en l'augmentant ou en le diminuant et on voit que certaines plantes... Alors c'est vraiment très variable. Si on a un fort magnétisme, il y en a qui vont germer plus vite, qui vont pousser plus ou au contraire ça va les inhiber. Mais il y a encore beaucoup de questions finalement. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. Voilà. Est-ce qu'on pourra l'utiliser ou pas Mais on sait qu'elles captent ça. Et on pense aussi qu'elles sont peut-être capables de capter le magnétisme qui émane des autres plantes autour d'elles. C'est en friche, ce domaine de recherche-là aussi.
Le cher tournesol, est-ce qu'on peut dire qu'il a une boussole, celui-là ?
Alors, on pense qu'il a une mémoire, en fait, de sa position, puisque, voilà, le tournesol, il va suivre la course du soleil autour du jour, et puis pendant la nuit, il va reprendre la position qu'il avait au matin, pour être bien placé, pour recommencer le matin suivant. Il faut, quelque part, qu'il ait une mémoire de sa position précédente pour la retrouver pendant la nuit. Donc ça, c'est encore une hypothèse qu'on a... Et peut-être également, comme vous dites, pourquoi pas une boussole qui serait liée à tout ça. Là, c'est voilà. J'ai pas encore toutes les réponses à vous donner.
Et c'est pas grave, justement, c'est ça aussi la science. Donc, avec cette intelligence des plantes chez Ulmer, Fleur d'Auger, vous êtes une femme de l'Aveyron. Je ne sais pas de quel coin vous êtes. Est-ce que vous êtes de l'Aubrac, du Ségala, de la vallée du Lot ? D'où êtes-vous ?
Je suis pas de là-bas, mais j'habite dans le sud Aveyron, pas loin de Saint-Affrique.
Région. Nous léchons le Larzac, hein, c'est ça, qui est juste au-dessus. Peut-être une plante ou deux qui vous plaisent particulièrement dans ce coin de l'Aveyron et du sud de la France ?
Ben, je suis en train de penser aux orchidées qui sont en train de pousser en ce moment et que je rate parce que je ne suis pas chez moi.
Oui.
Il y en a plein en ce moment, l'orchis abeille à laquelle je pense, l'orchis pyramidale aussi, toutes ces petites orchidées. Il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas qu'on a des orchidées chez nous parce qu'il n'y a pas que les grosses orchidées des fleuristes et qu'on met en pot dans nos maisons. On a aussi sur le bord des chemins, dans tous ces champs secs, plein d'orchidées magnifiques à aller observer.
Bah écoutez, cet ouvrage, en tout cas, ferait extrêmement plaisir à M. Fabre, hein, qui était aussi originaire de l'Aveyron, me semble-t-il.
Ah oui, j'espère. Bah voilà. J'aimerais bien.
Donc, l'intelligence. Mais oui. Et on peut vous retrouver ce week-end chez nos amis de Chapitre Nature. Donc, c'est un formidable festival de nature qui se trouve au Blanc, à Le Blanc. Donc, on est dans le département de l'Indre. Donc, on est pas loin de la Brenne. Hein. La Brenne est juste à côté. Donc, là aussi, c'est un paradis pour les naturalistes. On vous remercie de tout cœur. Et puis, donc, l'intelligence des plantes, c'est chez Ulmer. Merci à vous, Fleur d'Auger. À très bientôt.
Merci à vous. Merci. Au revoir.
Et on va poursuivre donc le voyage avec, toujours dans le végétal, avec Nicolas Métraux dans quelques instants. Ça va être l'arbre comme solution. Il est le président de Kinomé. Hop, musique.
I found hay in a stack of needles, four leaf clover in a mile of weeds.
Found the one
understands my downs.
Found the one
puts up with my needs of everybody under the sun. I found the one. If you're gonna gamble, may as well be on love.
Found the one.
May have had something before.
Found the one.
But now you can't get enough. Before it's all said and done, I found the one.
Ah, c'était du lourd, ça. Oui, oui, sur France Inter. Donc, c'était Ben Harper. Alors, je sais que vous avez un œil sur Harry et Meghan qui se marient merveilleusement. Vous avez coupé le son, vous avez bien raison. Et vous écoutez France Inter, CO2 Mon Amour, ce qui donne quand même un truc assez surréaliste, faut quand même bien le dire. Rebonjour, Nicolas Métraux.
Rebonjour.
Alors, président de Kinomé, on reste dans le domaine végétal avec vous. Alors, vous êtes un homme qui vous avait fait une école de commerce. Vous avez deux grands-pères qui étaient forestiers dans les Ardennes et puis aussi au Maroc où ce grand-père a planté donc des arbres. Du côté maternel, c'était dans la Marne. Donc là, on récoltait et puis on transformait. Donc on va dire qu'il y a une espèce de vocation. Et ça nous intéresse de savoir ce qu'est Kinomé. Et puis peut-être d'abord le nom de Kinomé, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors j'ai eu la chance d'habiter au Japon. Et Kinomé, ça veut dire l'œil de l'arbre. Ki, c'est l'arbre. Ouais. Et mé, c'est l'œil.
Et alors derrière, donc Kinomé, qu'est-ce que vous avez voulu créer? Parce que donc, ce sont des solutions qui nous intéressent grâce à l'arbre. Donc pour qui, pourquoi, qu'est-ce que vous faites?
Eh ben, on a entendu plein de choses passionnantes sur les plantes. Et en fait, en prenant l'œil de l'arbre, on peut apporter des tas de solutions aux problèmes des êtres humains et du coup les amener à évoluer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la forêt s'en va, que la biodiversité s'en va, et pour autant, les comportements n'ont pas changé. Donc on a besoin d'améliorer concrètement la vie des gens pour les convaincre de changer. Et ça, ça demande une approche d'abord centrée sur l'être humain, parce que le problème, c'est pas la plante, c'est l'homme, et puis complète. Intégrer. Et c'est pour ça que Kinomé fait à la fois de la recherche pour mieux comprendre toutes les choses qu'on a entendues tout à l'heure, comment l'arbre peut nous aider, fait du conseil pour influencer en fait aussi bien les institutionnels que les entreprises, ensuite applique sur le terrain avec des projets et enfin partage en éducation, notamment avec les enfants en éducation environnementale. Et donc partage des solutions. Une première solution qu'on pourrait imaginer, par exemple, qui n'est pas d'ailleurs imaginaire, mais bien réelle maintenant, on a longtemps, je me suis beaucoup promené en Afrique et je voyais beaucoup d'enfants avec le ventre plein, malheureusement, de parasites. Eh bien, il y a un arbre qui vient à l'origine d'Éthiopie et d'Inde, qui s'appelle le moringa, moringa oleifera, dont les feuilles sont plus riches en vitamine C que l'orange, plus riches en vitamine A que la carotte, plus riches en protéines que la viande, plus riches en potassium que la banane, etc. Elle est connue, cette plante, pour ses vertus médicinales, pour la lutte contre le diabète, l'hypertension, c'est aussi un anti-inflammatoire, mais elle est peu connue pour ses vertus nutritionnelles, alors qu'il y a un problème énorme de sécurité alimentaire et de nutrition dans toute la bande intertropicale.
Alors comment avez-vous fait, parce que là on est au Togo, donc avec ce moringa, vous avez travaillé, on l'a bien compris, avec des scientifiques donc au préalable, pour bien comprendre comment fonctionnait donc cet arbre, et après, alors comment on fait localement avec cet arbre pour essayer de trouver des solutions?
Ben, on s'est aperçu de deux choses. Un, que ça n'avait pas échappé aux bactéries, qu'il était plein de bonnes choses, cet arbre. Et que du coup, quand on séchait les feuilles pour les garder et les mettre dans la sauce ensuite pour les manger, eh ben, si on les séchait pas bien et si on se lavait pas bien les mains ou les pieds, il y avait des tas de bactéries, parfois même des salmonelles ou des Escherichia coli qui se développaient et qui donc allaient créer l'inverse de ce qu'on voulait. Donc première chose, travailler sur le séchage avec des séchoirs solaires, solaires et gaz quand il y a trop d'humidité, des solutions qui permettent d'améliorer l'hygiène et puis des processus tout simples de marche en avant et d'éducation des gens. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est souvent des problèmes humains. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, ben c'est le métier du partage, c'est d'expliquer aux gens et de travailler sur les recettes de cuisine pour que les mamans dans un premier temps et les enfants ensuite dans les cantines scolaires aiment ce moringa. Et c'est le cas maintenant, on le voit, ils adorent ça et du coup non seulement ils mangent des choses qu'ils aiment mais en plus ils vont mieux suivre en classe, mieux se développer et avoir un autre futur.
Nicolas Métraux, vous partez en fait des différentes communautés, vous allez voir les villageois, ce sont des communautés quoi, de 100, 200, 300, 500 habitants. Et d'abord, vous fonctionnez comment? Parce que vous ne leur imposez pas donc, ce moringa, donc vous êtes à l'écoute. Quel est le mode d'emploi?
Là aussi, effectivement, j'ai observé souvent que le problème du développement, c'est qu'on arrive avec les meilleures intentions, avec des solutions toutes faites. Ouais. Et on travaille en silo.
Classique.
Donc effectivement, à l'inverse, nous travaillons avec les communautés, souvent avec des groupes de femmes, des groupes de mamans, et à qui nous disons, sans tout de suite parler de planter d'arbres, qu'est-ce qui ferait que vos enfants, vos jeunes, ils puissent rester au village, ou rentrer au village, s'ils le souhaitent. Pas obligatoire, mais qu'ils puissent rester là. Et là, on va avoir des sujets sur, ah ben, il n'y a pas d'accès à l'eau ici. Tiens, bizarre, il n'y a plus un arbre le long de la rivière. Ah, on n'a pas de quoi manger. Tiens, bizarre, il n'y a plus d'eau dans les puits, donc il n'y a plus de culture, donc il n'y a plus à manger. Il n'y a pas d'emploi, etc., etc. Et donc, à partir des besoins des gens, effectivement, avec des communautés de 50, 100, des villages de 200, 300 personnes, on commence à créer une vision commune et globale de comment développer les choses pour une vie meilleure ici. Et comme nous dépendons, nous les êtres humains, des arbres pour à peu près tout, et que nous avons vécu dans les bras des arbres pendant 80 millions d'années avant de descendre, de libérer nos bras, de développer notre cerveau, et de mettre notre intelligence dans notre cerveau, les plantes ailleurs, eh ben, on trouve des solutions qui partent des arbres. Ce moringa, par exemple, il vient des arbres. Et puis on va le mélanger avec des cultures, avec des pois, par exemple. Les pois légumineuses vont mettre de l'azote dans le sol. Le moringa va apporter de l'humidité. Et puis, sans beaucoup d'investissement, très rapidement, au bout de 6 mois, il va y avoir des feuilles. On va pouvoir faire de la sauce, avec comme des épinards, ou bien de la poudre. Et puis, on va créer de l'emploi. Et puis, surtout, on va améliorer la santé des gamins.
Donc, solution de santé, solution sociale, solution environnementale. Comment fait-on? C'est-à-dire, on travaille avec les États. Vous n'êtes pas une ONG non plus. Comment on fait?
En fait, j'ai voulu être une entreprise sociale pour être dans le paradigme classique.
Vous relevez de l'économie sociale et solidaire.
Voilà, parce qu'il y a besoin pour que les arbres soient pérennes, il faut qu'ils produisent. C'est un forestier allemand qui a inventé toute la finance, en fait, au 18e siècle, en calculant ce que valait aujourd'hui un chêne qui serait récolté 200 ans plus tard. Et sauf qu'il a fait ça sur 200 ans et qu'aujourd'hui on le fait sur 200 jours ou 200 minutes. Et donc c'est utiliser ce génie de l'arbre et l'ensemble des activités.
On arrive à zigouiller des chaînes vers 120, 140 ans à peu près, alors qu'il faudrait effectivement laisser davantage.
Non, mais quand on dit 200 minutes, c'est pour la finance.
Compris, oui, pour la finance.
Et effectivement, tout est parti comme ça.
Là, on est au milieu de secondes, là, maintenant. Donc, voilà. Bien sûr. Oui.
Et du coup, comment reconnecter à la puissance des plantes, on l'a vu tout à l'heure, reconnecter au potentiel de l'être humain qui, quand il a confiance en lui, n'a plus peur des autres et peut construire des projets collectifs et trouver des solutions. Alors, solution nutrition, on l'a dit, solution contre la désertification au Pérou, par exemple, avec le prosopis.
Alors, intéressant ça. Maintenant, rentrons dans la forêt sèche. Donc, ouais. on a la cordillère d'un côté, on a l'Amazonie donc, de l'autre. On est au Pérou. Où se trouve la forêt sèche?
Alors, la forêt sèche, elle est le long du Pacifique. Ça peut paraître bizarre, elle est le long de la mer. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'il y a... Il y a le courant de Humboldt, l'eau est très froide, il y a de l'évaporation et l'eau, en fait, elle arrive en Amazonie de l'autre côté de la
cordillère. Le courant de Humboldt, mais aussi le fameux El Niño, ce qui veut dire qu'il ne peut ne pas pleuvoir pendant 2 ans là-bas.
Exactement. Et il y a toujours une bonne nouvelle dans les mauvaises, c'est qu'il finit par pleuvoir. Et quand il pleut, apparaissent des petits arbres. En fait, les graines sont patientes, et là aussi, génie de la nature. Elles apparaissent, sauf que les chèvres, qui n'ont rien mangé depuis des mois, ou pas grand-chose, se précipitent et tout disparaît. Et nous, notre métier, à ce moment-là, c'est de faire des petits enclos en allant élaguer les arbres épineux et faire des enclos qui vont en plus repartir ensuite, protéger ces petits arbres qui vont pouvoir grandir. On fait du fourrage pour les chèvres parallèlement et surtout, on va valoriser ensuite les gousses de l'algarobo qui seront vendues au marché, qui feront de la mélasse, qui feront de la farine sans gluten au passage. Et des choses qui vont créer, là aussi, de l'économie du long terme. Et du coup, les gens, au lieu de repartir en ville chaque fois qu'il y a 2 ans de sécheresse, ils vont pouvoir rester. Voilà encore un exemple où on va s'appuyer sur le génie de l'arbre, l'algarobo, qui a sa racine pivotante qui va à 60 mètres de profondeur, et puis avec les mycorhizes, ça va même jusqu'à 120 mètres. Oui. Et maintenant, on sait ça. Et du coup, ensuite, en travaillant avec les communautés, en leur faisant faire des projets collectifs qui va récompenser le travail, parce que c'est un très long travail d'isoler tous ces petits arbres et de leur permettre de survivre. Avec ces projets collectifs, on va améliorer la gouvernance locale, on va améliorer la conscience de l'importance des arbres et la conscience de la capacité que les gens ont à améliorer leur futur. Et tout le monde est content, tout simplement.
Et donc cette culture vivante, cette mise en défense aussi, donc on empêche les chèvres, hein, c'est ce que vous dites.
Voilà. Voilà. Et du coup, ça fait reculer le désert, tout simplement.
Ouais. Voilà. Alors vous travaillez dans combien de pays? Parce que là, on a parlé du Togo, on a parlé donc du Pérou. Où travaillez-vous sinon?
Alors on travaille dans une douzaine de pays en permanence, 30 depuis 2005, hein, la création de Kinomé. On travaille par exemple en Ouganda, où là encore, on va s'appuyer sur les plantes pour faire un peu l'arbitrage. Il y a des conflits entre les hommes et les éléphants, les hommes et les chimpanzés. Il y a un grand parc national Kibale, où il y a une primatologue, Sabrina Krief, qui étudie depuis 20 ans les chimpanzés. Et les chimpanzés disparaissent de plus en plus parce qu'ils tombent dans des pièges de braconnage qu'ils ne sont pas destinés, mais qui font qu'un tiers des chimpanzés se trouvent handicapés, se trouvent amputés. Et puis les éléphants... eux, à l'inverse, ils viennent piller les jardins en dehors du parc. Et donc, on va utiliser les plantes pour voir ce qui n'est pas appété, pas mangé par les éléphants, ni par les chimpanzés, ni par les babouins, pour que les animaux sortent moins et que du coup, il y ait moins de besoin de vengeance et puis aussi de besoin d'approvisionnement en protéines, parce que chaque fois qu'il y a du pillage, c'est tout le travail qui est perdu. Et du coup, réduire les conflits et améliorer le développement, améliorer la vie quotidienne, là aussi grâce aux arbres, grâce aux animaux, et faire cohabiter tout le monde de façon harmonieuse.
Eh bien écoutez, un grand merci parce que ça nous fait beaucoup de bien. Donc c'était une émission consacrée au végétal, vous l'avez compris. Merci Nicolas Métro, président de Kinomé. Donc là aussi il y a un site, hein, www, j'imagine,
Kinomé.fr.
Kinomé.fr, vous avez tout. Et nous, on va se retrouver tranquillement la semaine prochaine avec Frédéric Lenoir. Tenez, philosophe. Pas forcément pour parler que de Spinoza, loin de là. Mais, est-ce que Spinoza était écolo? Je vous poserai la question après tout. Pourquoi pas? Ce sera pas le but. Non, vous verrez pourquoi donc Frédéric Lenoir est là. Il sera un peu, il sera carrément notre fil rouge. Merci à Camille Blanès qui a passé sa maîtrise de réalisation, mais sous la houlette inspirée toujours de Xavier Pestugia, à Nicolas Slimani, à Nicolas Cazot. Merci à nos amis de France Bleu Berry, Muriel Pérez, Anne Gouzon, donc, qui nourrit les sites de CO2. Le répondeur 01 56 40 40 35, on aura plein de messages la semaine prochaine. Le podcast, vous en avez l'habitude, abonnez-vous au podcast d'abord de France Inter et de CO2 Mon Amour. Rediffusion entre 5h et 6h. Et demain, 19h54, et bien ce sera La Tulu, mon petit loup.